Alors, on va enchaîner avec les auteurs de renom. Je me suis retrouvé donc dans une école de renom. Je leur ai demandé de quoi ils voulaient parler. Puis, il y a eu un feu d'artifice. Il y avait plein d'idées qui apparaissaient. C'était très lié à notre monde aujourd'hui. Du coup, il y aura une histoire avec Facebook, un groupe sur Facebook. Il y aura The King of Pop, qui, dans cette version, n'est pas mort. Ce qui était intéressant, c'est que c'était leurs histoires et bon, il y avait chaque semaine quand je recevais les textes, c'était un feu d'artifice. Il y avait plein d'idées, c'était super simple de faire des. Aucun des chapitres n'était parfait, mais il y avait au moins une fabuleuse idée par groupe. Donc, j'avais qu'à assembler, à me promener dans les versions que je recevais. J'avais des super auteurs. J'avais pas besoin de les motiver. Ils avaient faim. Ils avaient faim d'écrire. C'était parfait. Petit à petit, l'histoire s'est développé dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y aura un intermède très court, mais intermède musical quand même. Ils ont en plus fait des dessins, ceux qui sont au mur, c'est leur collage, leur dessin. Donc, on était une dream team, il y avait les auteurs, il y avait les profs qui se donnaient pour que les rêves se réalisent. Ils avaient envie de dessiner, ok, il y aura ça en plus. Ils avaient envie de faire un intermède musical, donc. Avec leur prof de danse, ils ont fait un intermède musical, ou la prof de gym, mais de danse aussi. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, nous sommes à la veille de l'ouverture de la Maison de la littérature. Là, il y a une lecture dans une bibliothèque, et je pense que ce qui aurait été parfait, c'est que les deux événements soient le même jour. Je pense qu'il y a un lien à faire très fort entre les auteurs et les écoles. Parce que pour qu'un livre sorte quand un auteur a 20 ans, pour qu'un auteur de 20 ans publie un livre, il faut déjà qu'il ait commencé à écrire à 14 et qu'il lise à 14. Sinon, ça ne marchera jamais. Alors, je pense qu'il faut développer ce genre d'initiative, des écrivains qui rencontrent des jeunes auteurs. Voilà ce que ça peut donner. On a eu une première version, voici une deuxième. À vous la parole.
Chapitre 1, la rencontre. Bon, pour commencer, je m'appelle Jean-Benoît. Oui, mon prénom, je l'aime pas trop. En fait, mes parents m'ont appelé comme ça parce qu'un de mes compères s'appelle Jean et l'autre Benoît. Bref, je suis issu d'une famille riche. Mon père est directeur adjoint d'une grande marque de parfums. À part ça, j'ai fêté mon 22e anniversaire il y a 2 semaines. Et je suis également à son domicile fixe depuis 2 semaines. Parce que, pour être franc, je faisais du marketing, du show business et mon projet a fait faillite. Mon meilleur ami, qui est un ami d'enfance, s'appelle Jacques. Même si je le connais depuis très longtemps, j'ai l'impression de ne pas en savoir beaucoup à son sujet. Il lui arrive de dire qu'il a 23 ans et le lendemain d'en avoir 26. Il ne vit pas très loin du pont où je dors.
Parfois, il m'arrive de lui rendre visite, mais il est rarement à la maison. Le plus souvent, si je vais chez lui, c'est pour me connecter sur Facebook. Oui, moi, un SDF, j'ai un compte Facebook. J'ajoute que tout le monde et n'importe qui en a un. J'ai un peu plus de 700 amis, mais sur ce nombre, je dois n'en connaître qu'une dizaine. D'ailleurs, là, je suis avec Jack et nous nous préparons pour aller à une rencontre organisée par un groupe Facebook, les IJ. Oui, on a formé un groupe, car tout le monde a la première lettre de son prénom qui commence par un IJ. Je ne les ai jamais vus. Nous avons juste parlé sur les messageries instantanées. Quelques conversations banales du genre.
SLT, ça va?
Oui, MDR, et toi?
Ouais, LOL, XD.
Nous avons tous rendez-vous sur le parking à l'entrée de la forêt à 20h. Je passe devant le CRA et j'entends de la musique, c'est du rock. Je me dirige vers la gare et je suis presque sûr de tomber sur le vieux clochard qui joue de la musique dans le passage souterrain. Comme d'hab, je lui donne un bal. Quand j'arrive vers les magasins, le soleil couchant colore la tour de béton. Cette construction de 61 mètres était un ancien silo appelé. Je continue en direction du cimetière.
Je retrouve Jacques et nous arrivons au parking à 20h05. Personne n'est là. Cet endroit est vraiment mal éclairé. Il y a des galériens de tous âges. Le sol est jonché de bouteilles d'alcool vides et de mégots. Les murs des toilettes publiques sont tagués en noir et blanc, 1020 MXX. À côté des arbres, une poubelle a été brûlée. Une voiture a une vitre cassée. Jacques commence à râler. Au loin, nous voyons une silhouette qui arrive. La fille s'approche de moi. Elle me demande si je suis Jean-Benoît. Oui, et... Ah, moi c'est Justine, m'interrompt-elle en agitant son sac Gucci. C'est sûrement un faux. T'as quel âge? On se donne notre âge. Justine a 16 ans, moi 22 ans, mais ça, vous le savez déjà. En pleine conversation, je sors un paquet de clopes. Tu fumes ? Non, répond Justine avec un ton agressif. C'est bien un truc que je déteste, c'est la fumée de cigarette. Ok, il n'y a personne d'autre qui devait venir, je demande. Jacques répond. Il y a encore Joe qui doit venir. J'espère qu'il ne va pas nous lâcher ce jour.
Pourquoi, questionne Justine ? Bah, parce que c'est lui qui nous ramène la boisson et la weed. De la weed ? Crie Justine. On m'a jamais dit qu'il y aurait de la weed. Je m'en fous, moi je fume pas. Jacques lui répond. Tu fumes pas, tant mieux. Il y en aurait plus pour nous. Sur Facebook, vous aviez l'air sympathique, soupire Justine. Mais on voit bien que sur les réseaux sociaux, on peut s'inventer une vie. Justine reste dans son coin vers une fontaine pas très loin de la forêt. Elle sort son portable et ses écouteurs. Elle met de la musique et attend que le temps passe jusqu'à l'arrivée des autres. Elle va bien finir par s'intégrer. Au même moment, une autre fille s'approche et Jacques bugle.
Putain, ce qu'elle est bonne! Merci, je m'appelle Jacqueline. Eh, ça tombe bien, on a presque le même prénom. Ouais, mais non. Elle a un style de, comment dire, vulgaire. Mini-jupe, décolleté, talon de 12 cm. Moi, perso, j'appelle ça une prostituée. Jacques bave comme si c'était un chien devant un bon steak. Et il lui demande, t'as quel âge? 18, et toi? 20. Il ment, comme d'habitude. T'es doux? Je sais pas si je suis douce. Non, non, mais t'es doux. D'où tu viens? Ah, moi je viens de chez moi. Mais t'es conne ou bien?
On entend quelqu'un crier le nom de Justine. Ça vient de la forêt. Justine décide d'aller voir ce que c'est. Elle entre dans les buissons. Il y a un cimetière, dit Justine. Tout le monde se retourne d'un coup. On marche en direction du cimetière. On regarde s'il y a quelqu'un dans les alentours, mais rien. Et soudain, on entend des bruits bizarres. En arrivant sur place, on tombe sur un type qui a environ 50 ans. Son crâne est rasé, il a un piercing à la fesse droite, au-dessus de son jeans taille basse, et un bide de gros buveur de bière. « Je vous présente Joe, » dit Jacques. « C'est un criminel recherché par Interpol. Il fréquente des gens pas nets et il connaît tous les patrons des boîtes de nuit. Je ne savais pas que Jacques avait un ami dealer. J'ai l'impression qu'on se souviendra longtemps de cette nuit-là. »
Chapitre 2. MJ. Nous observons le cimetière, inquiets. C'est un soir de pleine lune. Il y a du vent et le temps s'est rafraîchi. Ma maman va me punir si je ne suis pas à la maison à 23h, dit Justine. Tout le monde commence à rire. Pour ne pas montrer qu'elle a peur, Justine trouve comme excuse qu'elle doit rentrer à 23h30. Jacques décide d'aller voir les tombes de près. Tout le monde est d'accord, mais à condition qu'il passe en premier. À cause des arbres de la forêt, il fait sombre, malgré la lune. Je mate Jacques pour essayer de piger ce qu'il fait. À la lueur de la lune, je réussis à déchiffrer l'expression de son visage, même si nous sommes encore assez loin de lui. Il est stupéfait. « Venez, vite, dépêchez-vous, vite !» s'écrie Jacques en faisant des gestes indescriptibles, comme s'il frôlait la crise cardiaque. Tout le monde court à toute vitesse pour le rejoindre. Nous le retrouvons à genoux, quasi traumatisé. Il montre une ombre, la silhouette d'une femme grande et maigre avec de longs cheveux. De profil, son nez est aplati. « Putain, mais c'est quoi ce délire? On se croirait un vendredi 13, dis-je. »
Et à ce moment-là, Justine annonce. « Non, c'est pas le 13. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2011. Et ça fait 2 ans que, jour pour jour, Michael Jackson est décédé. Peut-être que c'est lui. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Jacques lui répond, très stressé. « Arrête tes conneries. Je vois pas le rapport avec Michael Jackson. Au fait, au fond de moi, je me dis qu'elle a peut-être raison. Cette ombre... quand j'y pense, pourrait bien être celle de Michael. Je vois alors quelque chose de suspect sur le sol. Le gant pailleté de diamant de Mr. Jackson. J'hallucine. Le vrai, l'unique, la star est venue ici. Tout à coup, Jacqueline pointe de l'index la tombe devant elle. Nous levons la tête pour voir. Non, c'est un peu impossible, dis-je tétanisé. Sur la tombe est inscrit Michael Joseph Jackson, 29 août 1958, 25 juin 2009.
Oh my God! La tombe de Michael. La tombe est en or. La terre a été creusée tout autour comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. C'est impossible que MJ soit enterré ici, à je ne sais pas combien de kilomètres des États-Unis, dit Joe en se grattant la fesse droite. C'est sûrement à cause de son piercing. Ce Joe donne l'impression de n'avoir peur de rien, comme s'il était meilleur que tout, ou comme si rien de pire que lui ne pouvait arriver. Je me méfie vraiment de lui. Tout à coup, on voit une main sortir de la tombe. « Je rêve !» murmure Jack. « On a trop fumé de weed, les mecs. » Le cercueil s'ouvre complètement. Un homme tout blond avec des cheveux longs et frisés en sort. Il porte une veste en cuir rouge et noir. Ah ! Nous commençons à courir en direction de la sortie. Mais le portail se ferme brusquement. Nous nous retournons et voyons Michael Jackson. Il siffle et tous les autres cercueils s'ouvrent dont sortent des zombies. Il y a des caméras cachées ou quoi ? Demande Justine en hurlant. La musique de MJ continue et les zombies s'approchent de plus en plus de nous. Justine s'évanouit. Tout à coup, Michael Jackson se met à faire la chorégraphie du clip Thriller. Les zombies le suivent dans ses mouvements.
La musique s'arrête brusquement. Il vient vers nous et s'exclame de sa voix aiguë. Eh oui, c'est bien moi, Michael Jackson. Je suis vivant. Pendant un moment, aucun de nous ne parle. Puis Jacqueline le demande. Le regarde, elle le fixe bien dans les yeux. Michael nous dit alors. Ça doit rester entre nous. Je voudrais que personne d'autre ne sache que je suis vivant. Mais pourquoi veux-tu que personne ne le sache ? Parce que c'est énorme, ce qu'on voit là. C'est une chance, un miracle. Je suis si étonnée que j'en perds mes mots. Si tu veux que personne ne le sache, alors on accepte ta décision, résume Jacqueline d'une voix douce et en souriant à Michael. C'est alors que Joe dit, j'ai une idée. Et si on allait faire un petit tour avec toi, Michael ? Ouais, mais je ne peux pas sortir de ce cimetière, car tout le monde croit que je suis mort depuis 2 ans.
Chapitre 3, le palace. Nous allons tous nous promener. Justine demande alors à MJ, pourquoi est-ce que tu te caches ici alors que tous les médias ont filmé ton cercueil à Los Angeles ? Que fais-tu si loin des États-Unis ? Et pourquoi as-tu laissé toute ta famille là-bas ? Je voulais avoir une enfance comme tous les mômes, mais mon daddy ne me laissait pas jouer. Il voulait toujours me faire travailler des chorégraphies. Quand j'ai eu du succès, mon father m'a volé presque toute ma fortune. En faisant nothing, tout le monde entier commençait à me saouler. Ils étaient tous sur mon dos et la célébrité m'étouffait. Ma vie était un enfer. Donc j'ai organisé ma mort pour ne plus subir toute cette pression et j'ai laissé tomber toute ma famille pour jouer le jeu. Mais comment t'as fait pour tout organiser ? Ça a dû te prendre des années. Et tu manges quoi ?
J'ai appelé la morgue de Los Angeles et les artistes qui étaient à la cérémonie. Je leur ai tout expliqué. Je les ai payés pour garder tout ça secret. Ça m'a pris 1 an, 274 jours et 36 heures pour tout organiser. La morgue de LA se charge de tout. Chaque semaine, ils me livrent de quoi me nourrir. C'est embêtant pour eux, mais je les paye. Mais alors, qui est dans ta tombe à Los Angeles ? J'ai mis une de mes statuettes la plus maigre, bien sûr. Pourquoi tu t'es mis à danser comme ça, tout d'un coup ? Est-ce que tu savais qu'on allait venir ? Demande Jacqueline. En fait, je vous ai observé depuis le début. Dès votre entrée dans la forêt, je vous ai trouvé sympathique. Comme depuis 2 ans, je ne parle à personne. Je suis hyper content de vous rencontrer.
Nous continuons à marcher et à discuter avec la star, dans le cimetière. Il nous raconte que chaque soir, il chante et danse en même temps, car ça lui rappelle l'époque où il faisait le clip Thriller. Ça le détend. Mais c'est quoi ces zombies qui sont tout autour de toi ? Demande Jacqueline. C'est moi qui les ai créés pour faire des chorégraphies. Jacqueline est très intéressée par lui. Elle fait donc semblant d'avoir peur du noir, se serre contre lui, le sourit tout le temps. Il a l'air d'apprécier qu'elle pose des questions. « Hé Michael, depuis quand tu parles français ?» Il lui répond, « En fait, comme ma mère était d'origine française, je lui ai demandé un jour de me parler de sa langue maternelle. Au début, j'essayais de comprendre ce qu'elle disait, et c'est comme ça que j'ai appris le français. Je sais parler plusieurs langues, je pourrais te les apprendre si tu veux. »« Ouais, ce serait génial, mais lesquelles ?» demande-t-elle. Je suis capable de parler le français, le grec, l'italien, le tamoul, l'albanais, le somalien, le mandarin, le bosniaque, le flamand, le russe, le gaélique, le bulgare, le romani des tziganes, le romanche, le langage de rue et bien sûr l'anglais.
Oh, je veux que tu m'apprennes l'italien. J'aime trop cette langue. Se réjouit Jacqueline toute excitée. Quel âge as-tu ? J'ai 18 ans et toi ? 51 ans, c'est ça ? Oui, je voulais te dire que je te trouve très charmante. Il est déjà 4h30 du matin et il doit nous laisser, car le soleil va se lever et des gens risquent de passer devant le cimetière. Il ne faut absolument pas que quelqu'un le voie. Alors Michael va rentrer discrètement chez lui. « Je vous invite chez moi, dit-il. Mais où habites-tu ? » demande Joe épaté. « Ben, dans ma tombe, répond-il. » MJ appuie sur un bouton et la tombe s'ouvre. Un toboggan apparaît. Nous montons dessus, il fait une spirale et nous amène sur un tremplin, d'où nous tombons sur un matelas. MJ crie avec son tic caractéristique.
« Waouh, chikaboumbou !»
C'est trop marrant. Nous atterrissons dans une grotte secrète, sa maison. En fait, c'est un palace souterrain, très grand, au moins 100 fois ma maison. Et je suis sérieux, avec des femmes de ménage robotisées. Une fois arrivé au salon, Michael nous sert des coca. Joe sort de sa poche un sachet de weed et commence à se rouler un bed. « Passe-le à tout le monde !» dit Jacques comme s'il était en manque. Joe fait passer, nous faisons tous une soufflette. Même Michael essaye. « Étouffe-toi pas
!» Désolé, mais c'est ma première fois. Dites, tous vos prénoms commencent par la lettre « Ige ». Est-ce que je peux faire partie de votre groupe ?
On est tous d'accord. Fais-nous la suite de la visite, propose Jacqueline. Ok, suivez-moi. Nous marchons et découvrons son musée qui est rempli de trophées, son garage de voitures des années 1250. Ce sont des ânes empaillés. Nous parcourons un couloir gigantesque. Il nous dit qu'il mesure 220 mètres de long, et j'en passe. Jacqueline drague ouvertement Michael Jackson. On voit dans ses yeux qu'elle ressent quelque chose de fort pour lui. C'est peut-être son genre de mec, ou peut-être qu'elle fait ça pour son argent. Au final, c'est une prostituée. Elle remonte son string bien haut et fait tomber son sac en criant bien fort. Oups ! Elle le ramasse et alors ralentit, mais en se penchant bien devant la star. Ouais, de quoi je parle ? Jacqueline, Jacques et MJ sont tétanisés.
Chapitre 4. Le mauvais coup. What the S, murmure MJ. Pendant que Jacqueline continue à draguer Michael, je remarque que Joe s'éloigne du groupe. Il sort discrètement son iPhone 4 de la poche de son pantalon diesel, dont il gratte la poche droite, encore son piercing à la fesse. Complètement stressé, il compose un numéro. Je le regarde du coin de l'œil et je tourne l'oreille. Je parviens à entendre quelques mots du genre « Michael, cimetière, thune, raboulé ». Je reste bouche bée. J'imagine qu'il a appelé ses potes pour qu'ils viennent l'aider à voler le fric d'MJ. « Qui t'a appelé ?» je lui demande. « Ben, ta mère, de quoi je me mêle ?» répond Joe méfiant. « Toi, tu prépares quelque chose ?» lui dis-je. Il me répond. « Mais non, j'ai juste appelé un pote qui voulait de la weed. Je vais lui en apporter dans 2 heures. » Je le surveille discrètement. Justine demande à Michael Jackson si c'est lui qui l'avait appelé à l'entrée de la forêt. « Yes, c'était Mi, » répond-il. « J'ai entendu ton prénom pendant que vous vous présentiez. »« Ah, d'accord, j'ai eu très peur, » ajoute Justine.
Je complimente Michael sur ses clips et lui dis « Mon préféré, c'est celui où tu exécutes plein de danses différentes. »« Ah oui, c'est Black or White, » précise-t-il. J'ajoute « C'est dommage que tu ne fasses plus de clips. Tu pourrais gagner des millions en tournant une vidéo inédite. » Justine lui demande « T'as pas envie de tourner un nouveau clip ?» Je pourrais être le producteur ? Je propose enthousiasmé. Je sais pas, je suis pas encore prêt à redevenir ce que j'étais avant, répond MJ. Rien que d'y penser, ça me donne envie de rester dans ma tombe. Jacqueline et moi, nous discutons longuement. Je lui propose de profiter de l'argent de Michael. Elle dit d'abord qu'elle n'est pas d'accord. Mais quand je lui explique qu'on peut gagner des millions de dollars, elle a les yeux qui brillent. Elle demande ce qu'elle peut faire pour m'aider. Je lui réponds qu'elle doit juste draguer Michael et le convaincre de faire un nouveau clip. Elle demande alors, « Et combien je vais gagner ? Fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas, je te le promets. »
Joe m'a l'air de plus en plus suspect. Il regarde sa montre toutes les 2 minutes. À croire qu'il attend vraiment quelqu'un, c'est étrange. « Bon, je sors un moment, » dit Joe. « Où vas-tu ? » demande MJ en le regardant de travers. « Reste ici, je vais vous préparer ma pâtisserie préférée. Vous allez tous adorer. Non, c'est bon, j'ai pas faim et puis je préfère aller prendre un peu l'air. » Il fait trop chaud ici. Je le suis discrètement, mais Michael me demande. Où est-ce que tu vas ? Aux toilettes, je lui réponds nerveusement. C'est tout droit et à gauche, explique-t-il. Je continue donc tout droit et j'attends que Michael s'en aille. J'ai vu Joe tourner à droite, je veux le retrouver. Je le vois qui ouvre une porte sur laquelle figure une pancarte « Michael Joseph Jackson ». Il pénètre dans cette pièce très bien décorée, aux couleurs très vives. Je l'observe qui tourne en rond comme s'il cherchait quelque chose. Il voit un coffre-fort où il y a une très grosse fortune, je suppose. Puis il sourit. Il sort alors de la chambre comme s'il n'avait rien vu. Je n'ai pas le temps de filer. Il me voit et me demande très énervé. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?»« En fait, je cherche les toilettes, mais c'est tellement grand que je dois m'être trompé de chemin, lui avouai-je. Je fais semblant de retourner au salon et je continue à le suivre. »
Chapitre 5. Au pays des bisounours. Je sors du cimetière et une jaguar d'enfer de couleur blanche arrive. Des types sortent de la voiture. « Vous avez le matériel ?» demande Joe dans un murmure. « Ouais, t'inquiète, » répond l'un des types. Tout d'un coup, j'écrase un bout de bois sec qui craque bruyamment. Il regarde dans ma direction. Heureusement, j'ai le réflexe de me cacher derrière une tombe. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Ils avancent, mais ils vont tous en direction de la tombe de MJ. Ils sont armés, et même bien armés. Que du dernier cri. Je prends vite mon portable. Je transpire. J'ai peur. J'appelle Jack, qui me répond tout de suite, surpris. « Ouais, quoi ?» Joe se ramène avec ses potes dans la tombe de Michael Jackson. « T'es pas au chiottes, toi ?»« Mais non, j'ai suivi Joe parce que je pensais qu'il préparait quelque chose. Fais gaffe, il arrive avec des types sacrément bien armés. »
Voilà, merci beaucoup pour avoir écouté et bonne soirée.